Cryptualité, semaine 42. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, je ne ferai aucune remarque sur le chiffre 42.
Aucune remarque.
Bon, ok, d'accord, je viens d'en faire une. Donc, la revue de presse, West France, une install party pour découvrir Linux à Granville.
Alors, c'est quelque chose qu'on remonte régulièrement, des gens qui s'organisent entre eux et qui vous invitent pour venir libérer votre ordinateur en mettant du logiciel libre dessus.
Là, c'était à la médiathèque et bravo à tous les gens qui ont participé à ça. L'essor, comment les gendarmes se sont passés d'un antivirus trop proche de Microsoft, un article de Gabriel Thierry.
Alors c'est un sujet que je trouve passionnant, je suis sûr qu'on en reparlera, on fera sûrement un podcast dessus. Mais bah, les gendarmes sont des gens formidables dans leur approche du logiciel libre et se battent pour utiliser des ordinateurs qu'ils contrôlent complètement. Donc c'est vraiment pas mal et ils refusent dans une large mesure d'utiliser du logiciel privateur et Microsoft. Mais on leur impose d'utiliser des antivirus. Donc c'est la galère depuis des années parce qu'ils essayent de passer à travers et que bah, ça ne leur nécessite pas de mettre Windows.
Il y a extrêmement peu de virus sur Linux.
Oui, mais il y a aussi peu d'antivirus, voilà. Semblerait, et en plus d'antivirus avec un fournisseur, une entreprise.
Est-ce que tu as déjà eu un virus sur un GNU Linux?
Ah, mais carrément pas.
Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà eu un virus sur un GNU Linux?
Du tout, mais il ne faut jamais parier parce qu'il y a toujours un risque. Il en existe des virus. Ceci dit, ça n'empêche, moi je ne mets jamais d'antivirus et je ne connais pas d'antivirus sous Linux, mais ça n'empêche. Bon, bref, les gendarmes ont trouvé enfin un fournisseur qui va leur filer quelque chose qui tourne sur leur Ubuntu. Ils ont une Ubuntu à eux.
Le Monde.fr, on a testé le système d'exploitation Android mobile dégooglisé. Un article de Nicolas Six.
Alors c'est slash e slash, mais je sais pas comment on le prononce.
C'est ça.
C'est embêtant.
On sent que les gens ils ont trouvé un nom vraiment bien, tu sais. Un
truc. Ah oui, super pratique. Ça m'a cassé tous mes filtres pour constituer la revue de presse. C'est juste génial. Mais on les encourage parce que ce sont des petits gars hyper motivés, hyper courageux. Ils essayent de refaire un Android-like, mais c'est juste, comme l'indique l'article, c'est un petit peu compliqué à installer quand on part de zéro. Le plus simple, c'est d'acheter un téléphone qui a déjà ce système d'exploitation libre installé de base. Il y a le Fairphone, notamment, qui peut remplir ce cas-là. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est toujours bien d'avoir de la compétition dans un espace comme le téléphone portable.
Numérama, LibreOffice interpelle Apache OpenOffice. Jetez l'éponge et rejoignez-nous, un article de Julien Lausson.
Alors, on a eu la réponse. Bah, non, ils n'ont pas jeté l'éponge. Ils ne rejoignent pas. Donc, en gros, c'est des versions concurrentes, malheureusement, d'un office libre qui s'appelle LibreOffice aujourd'hui.
Oui, donc ça a forqué, comme on dit. Hein.
Oui, ça a fourcheté.
Voilà. Par contre, tout le monde connaît la marque, le nom OpenOffice, et ça freine un peu LibreOffice dans son développement.
Malheureusement, donc là, bah non, ils ont sorti une info comme quoi OpenOffice ne rejoindra pas LibreOffice, en tout cas pour l'instant.
Ils vont continuer à échouer dans leur coin.
Voilà.
Marianne, données de santé hébergées par Microsoft, il y a un problème d'intégrité des responsables publics. Un article d'Alexandra Saviana.
Bon, alors c'est un gros sujet. Les données de santé des Français sont hébergées chez Microsoft aux États-Unis. C'est embêtant parce que les lois américaines s'appliquent nécessairement. Et sans forcément qu'on le sache d'ailleurs, parce qu'ils ont des lois secrètes, des conditions secrètes qui s'appliquent. Là, les autorités françaises ont déclaré que non, c'était pas normal. C'est juste que c'est en cours et que ça bataille dans tous les sens pour essayer de rapatrier ça en Europe sous un régime légal qui nous soit approprié.
The Conversation, la lutte pour une agriculture libre, bricolée et partagée pour s'émanciper. Un article de Morgan Meyer.
Et le sujet sur lequel on va commencer aujourd'hui, parce que c'est un sujet super intéressant, l'agriculture, hein ? Tu te sens fort sur l'agriculture, Luc ?
Oui, moi j'ai pas grandi à la campagne comme toi, mais...
Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, de quoi parle l'article ?
Bah alors, ça parle effectivement d'agriculture, mais pas que, ça parle plus globalement de s'émanciper avec le bricolage, les fabrications personnelles, et puis les échanges de données, les échanges de graines. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment pour pouvoir réparer ses tracteurs, réparer son matériel, en fabriquer en partant de rien ou en partant de pas grand-chose. On a parlé dans le passé, notamment, un docteur en physique nucléaire polonais qui s'est installé aux États-Unis et qui essaye de reconstituer tout le matériel agricole nécessaire à rebooter la civilisation parce que bah, ça l'amuse, globalement.
Et puis, dans un souci d'indépendance, donc nous, on aime bien rappeler que dans le domaine qui nous intéresse, le logiciel libre, et dans l'informatique en général, il y a plein de propriétés intellectuelles avec des gens qui essayent de bloquer, de s'approprier les idées.
D'enclore.
De tout bloquer. Dans le domaine de l'agriculture, c'est bien pire que dans notre domaine à nous. Chaque fois qu'on en entend parler, on est toujours effaré. Donc, on a des trucs qui sont assez connus. Hein,
alors, il y a des registres de graines qui vous imposent de n'utiliser que des graines qui font partie de ce registre. Et c'est souvent les grosses entreprises qui peuvent y mettre des graines.
C'est ça. Alors, donc, d'une part, ça coûte de l'argent. Mais aussi, il y a des critères. C'est-à-dire que les graines doivent donner quelque chose qui vont être calibrées, qui vont rentrer dans un certain critère parce que ça doit être industrialisable. Donc, si on veut faire autre chose... Eh ben, le catalogue dit juste non, vous n'êtes pas dans les critères et vous n'avez pas le droit d'être vendu. Alors je crois que pour les carottes, ça a été changé depuis.
Alors il y a eu des évolutions. Ouais, hein. Il semblerait que maintenant, les graines rustiques, ce qu'ils appellent, parce que forcément, les agriculteurs, depuis des générations, des milliers de générations, s'échangent entre eux ces fameuses graines. Et il y a plein de variétés qui existent. Et effectivement, là, on était en train de les raréfier au nom de la propriété, quelque part, de ce bien, qui est un bien commun ou public ?
Qui est un bien public, quoi qu'il faut voir, faut en discuter. Alors le mouvement est loin d'être à l'arrêt. Hein. Je viens de finir un bouquin qui s'appelle « L'art de la fausse générosité » donc sur la fondation Bill Gates, hein, donc, que tout le monde encense en disant « Oh là là, quel bienfaiteur de l'humanité !»
Oui, avec les milliards que l'humanité lui a transmis.
C'est ça, et qu'il a placé, donc en fait, il est encore plus riche et il continue à devenir de plus en plus riche. Hein, donc voilà. Mais c'est accessoire. Le truc, c'est que dans ses activités, cette fondation favorise la propriété intellectuelle, les semences, OGM, brevetés dans tous les coins, etc. Et ils veulent du brevet dans tous les sens. Tu parlais du matériel agricole, pour revenir sur l'agriculture, il y a également chez les agriculteurs cette difficulté de
réparer matériel.
Parce qu'ils sont endettés jusqu'au cou, ils achètent du matos très cher où on retrouve toutes les astuces de type tu pourras pas le réparer toi-même, il faut payer une maintenance et ceci.
Il y a des assurances appropriées, voilà. Il y a probablement des stickers qui font que si tu ouvres certains éléments du moteur, le sticker il est déchiré. Et l'assurance ne s'applique plus, enfin j'imagine. Hein. Et puis il y a de l'électronique et de l'informatique embarquée. Et les agriculteurs, ils n'ont pas forcément accès au logiciel et au matériel qui va leur permettre de recompiler peut-être ou de changer, modifier, mettre à jour des éléments du matériel qu'ils, pourtant, ils possèdent. Oui. Et donc aujourd'hui, quand ils ont des tracteurs qui tombent en panne, ils se retrouvent bloqués. Ils doivent aller voir le fournisseur de ce tracteur qui est le seul à pouvoir le contrôler. Voilà, on dirait une Ferrari, quoi.
Oui, mais pas qu'une Ferrari, hein. Il y a plein de voitures modernes maintenant où ce sont que des clés spéciales, etc. Et quelqu'un qui a une voiture récente, d'un grand constructeur, en général, ne peut quasi rien faire dedans.
Et donc, il y a plein de gens qui se battent pour ce droit à la réparabilité. Voilà. Alors, ça évolue dans les consciences et chez les législateurs. C'est comme les graines. On se rend compte que c'est des conneries quand même de bloquer la réparation.
Alors, c'est loin d'être gagné.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc, ça pose cette question de qu'est-ce que c'est qu'une agriculture libre ? Parce que dans le domaine du logiciel, on est sur du code, donc on est sur un bien immatériel. Donc,
qui est couvert par le droit d'auteur.
Donc très souvent, on parle de bien commun, c'est quelque chose qui revient très souvent dans la revue de presse. C'est quelque chose, dans les milieux qui rêvent d'alternatives, on parle beaucoup.
Et dans les milieux économiques.
Et oui, tout à fait. Pour comprendre ça, en fait, il y a un bouquin que j'ai lu. il est assez bref, donc je le recommande, c'est facile à lire.
Qui est
le bouquin d'Elinor Ostrom, « Gouvernance des biens communs ».
Et donc, c'est ce qui lui a gagné un prix Nobel.
Alors, c'est non, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie. Il y a le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, mais ce n'est pas un prix Nobel.
Et décerné par le comité Nobel.
Écoute, je l'ignorais.
Donc là, grosse évolution, parce que là, parler des biens communs et de manière positive, ça va à l'encontre de tout ce qu'on avait entendu auparavant dans les milieux économiques, à ma connaissance.
Effectivement. Alors, le gros apport d'Elinor Ostrom, c'est qu'elle a fait un truc complètement incroyable dans le monde de l'économie, c'est qu'elle est allée voir le terrain. Parce que les économistes, les théoriciens en économie, très souvent, ce qu'ils aiment bien faire, c'est prendre des grands principes, les brasser, dire voilà, paf, paf, paf. Et de fait, dans le livre, elle part de quelque chose qui était considéré comme une vérité admise dans le monde économique, qui était la tragédie des communs.
Et qui était effectivement plus une expérience de pensée, de la philosophie, et de la philosophie économique, on pourrait dire, que quelque chose qui s'applique.
Il y a pas mal de théoriciens économiques qui passent allègrement de la réflexion intellectuelle à la réalité. Et en disant, quand il y a un bien commun, alors le bien commun, dans le sens économique de cet auteur, donc j'ai oublié, et d'Elinor Ostrom, qu'elle reprend, elle reprend la même définition, c'est un bien qui est un bien rival, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais c'est un bien qui est global, collectif, typiquement de l'eau dans un réseau d'irrigation sur les paysans. Par exemple.
Et souvent, ce qui était utilisé dans la tragédie des communs, c'était des pâturages. Parce que des pâturages qui étaient gérés par un village, par exemple, c'est quelque chose qui peut être limité. À un moment donné, si on fait paître ses moutons dessus, y a moins de pâture à donner à ses moutons. Et donc, on peut les organiser pour que tout le monde en profite. Et justement, dans la tragédie des communs, il était question du fait que certains pouvaient faire trop pâturer leurs moutons. Et donc, c'était tragique parce que les autres n'allaient plus pouvoir en profiter.
Ouais, c'est comme l'irrigation où tu as un canal et le premier qui est sur le canal, il peut piquer toute la flotte et les autres derrière, ils n'ont rien du tout. La tragédie des communs telle qu'elle était exprimée, c'était de dire comme les agents économiques voient leur intérêt avant toute chose, donc c'est un premier point de départ, voilà. Ils vont être tentés de prendre toute la flotte ou tous les biens, etc.
Ils vont maximiser leur avantage personnel. Ils vont maximiser leur intérêt
et ils vont ne pas gérer la ressource. Personne ne se sentira responsable puisque ce n'est pas lui. Et donc, personne ne va l'entretenir. Et donc, du coup, un bien commun est condamné à péricliter et c'est condamné à ce que ça se passe très mal. Et donc, cet auteur disait, il y a deux solutions. L'une, c'est la propriété publique. Mais bon, voilà, c'était plutôt un auteur... libéral à l'époque, donc il n'aime même pas trop ça, ou alors on met un propriétaire privé, et lui, comme il a l'intérêt à ce que cette ressource lui fasse du profit, il va la maintenir dans le temps, et il va ensuite la répartir sur différents clients, puisque s'il n'en a qu'un seul, il ne sera pas en position de force pour négocier.
Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle l'enclosure des communs.
Ça, c'était la tragédie des communs, et dans le monde de l'économie, on considérait ça comme un truc incontournable, c'était brillamment démontré, et Linus Ostrom est allé voir la réalité et découvert un peu partout dans le monde, dans des coins très différents, le fait qu'il y ait notamment des paysans qui géraient, selon un principe d'auto-organisation, leurs ressources en eau, de telle sorte que, un, les infrastructures fonctionnent avec les petits canaux, les béales, etc., et deux, que personne ne soit lésé. Elle voit dans quelles conditions ça marche, dans quelles conditions ça marche pas. Elle dit notamment s'il y a un très gros acteur dans le système, ça marche plus. Mais en gros, elle a démontré que la tragédie des communs, c'était bidon, et que, voilà, il y a plein d'exemples, parfois très anciens, de biens communs qui étaient gérés collectivement.
Et en grande partie, c'est ce qui lui a permis de gagner ce prix.
Si on revient à Linus Ostrom et à sa définition, l'open data ou le logiciel libre n'est pas un bien commun, c'est un bien public.
Alors, c'est quoi la différence ?
La différence, c'est que c'est un bien qui n'est pas rival, c'est-à-dire que si je te prends ton code source, tu n'as pas perdu ton code source original. Je peux dupliquer ton code source, faire tourner des logiciels à droite à gauche, ça ne retire rien. On n'est pas comme dans le cas de l'eau, où le premier paysan qui prend la flotte, cette flotte-là, elle est perdue pour les autres.
Mais rappelons, il y a des gens qui essayent d'utiliser les lois pour quand même contourner le fait que la connaissance est diffusable et non excluable, et qui vont te rajouter du droit d'auteur, des brevets, des conditions d'accès, et qui vont faire en sorte de bloquer cette diffusion, malheureusement. Donc ça va un peu à l'encontre, mais...
C'est un mouvement de fond depuis un bon moment, et comme dans le domaine de l'agriculture, c'est loin d'être fini. Alors, c'était la fondation Gates qui pousse à fond dans ce sens-là. On l'a dans le domaine de la culture, où on va avoir des droits voisins, une extension du droit d'auteur à l'infini, sans doute, puisque tous les 20 ans, ça prend 20 ans.
Plein de gens essayent de se battre contre ça. Je pense notamment à Wikipédia. Effectivement, Wikipédia, c'est un bon cas. Ils sont sous licence Creative Commons et ils essayent de se gérer comme des communs. Vous pouvez aller y contribuer, vous pouvez aller y participer et faire la gestion de ce site qui est un bien incroyable pour l'humanité.
Voilà, la question que ça soulève, qui est un peu bizarre, c'est qu'on comprend comment l'information, c'est un bien public, c'est facile à partager. Mais comment on fait pour faire de l'agriculture libre, c'est-à-dire mettre une licence libre sur quelque chose de matériel ? Alors on peut dire, mes plans pour construire une machine, si je veux être autonome, oui, je peux les mettre les plans sous licence libre. En revanche, ma machine elle-même, elle est à moi. Je ne peux pas la partager.
C'est ta propriété et effectivement, ça va être difficile de dupliquer à l'infini une machine. Non, on n'a pas aujourd'hui.
La même chose sur les semences. Ce qui va être sous licence libre, c'est le code génétique.
Du code, d'ailleurs.
Voilà, qui est du code, encore une fois. Voilà, dans le domaine de l'art aussi, on a des gens qui font de l'art libre. Les musiques d'introduction bizarres, c'est de l'art libre. Et là, ce n'est pas exactement la même chose. C'est que souvent, la licence va s'appliquer à la copie. Donc, sur de la musique, à la limite, ça se copie assez facilement. Il y a fort longtemps, on avait fait un peu de radio avec Hélène Pestre, qui était une sculptrice, une jeune sculptrice, et qui avait mis sa sculpture sous licence libre. Et effectivement, ce n'est pas ça qui nous autorise à partir avec la sculpture sous le bras, hormis le fait qu'elle soit en métal et pèse un certain poids.
Elle est libre, mais elle n'est pas duplicable à l'infini, parce qu'elle
est matérielle. Et en fait, ce sont les représentations de cette œuvre qui sont sous licence libre. Mais après, c'est un domaine où il y a encore plein de choses à faire, et qui n'est pas le même domaine, et cette différence entre bien rival, non rival est vachement importante au final, parce que ça ouvre plein de possibilités. Par exemple, si je fais de la musique libre, est-ce qu'il faut que je fournisse les partitions ? Parce que si quelqu'un ne peut pas rejouer ma musique, peut-être qu'on pourrait dire qu'elle n'est pas libre. Alors aujourd'hui, dans les licences, on considère qu'elle est libre parce que la copie de la musique est sous licence libre.
Mais ça, c'est, c'est de la sémantique, c'est le mot qui s'applique comme
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Mais on pourrait très bien détailler. Il y a des gens, notamment Seb Cachot, le groupe n'existe plus, mais c'est eux à qui j'ai piqué la musique pour le générique. Sur certains albums, ils ont donné les détails des fichiers de mixage. Donc on voit tous les fichiers, comment ils sont agencés, etc. Si on veut remixer tout l'album, on peut le faire, par exemple. Et on peut se poser toutes ces questions-là, ça ouvre plein de possibilités. Après, c'est super que le libre inspire plein de gens, mais il faut toujours regarder les choses avec circonspection et se dire, ok, bon, chaque domaine est particulier et on ne peut pas nécessairement tout décliner à l'identique.
Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine, reste libre. Commun, public ?
Bah écoute, non, bien commun, parce que je ne suis pas duplicable à l'infini.
Mais on peut essayer.
Oui, sauf si on découvre la technologie du clonage rapide d'ici à la semaine prochaine. On tient pas vraiment.